Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et dans les minutes à venir. Après la reprise à l'école et au collège, 2 mois de cours, pourquoi faire? Sur le fond des enseignements, à quoi va être consacrée la période jusqu'à l'été? Comment suivre à la fois ceux qui sont physiquement présents et les autres restés à la maison? Quelle continuité pédagogique quand l'école se fait à mi-temps, voire à quart-temps? Les élèves ont-ils pris beaucoup de retard ou pas? Faut-il se consacrer avant tout aux matières essentielles, les maths, le français? Voilà quelques questions. Nous attendons les vôtres de questions et vos témoignages sur le contenu de l'école dans les semaines à venir. 01 45 24 7000 et puis l'application France Inter, la rubrique Intervenez. Pour dialoguer avec vous, 3 enseignants de terrain, 2 en élémentaire, 1 au collège, dans des niveaux où l'école a repris. 01 45 24 7000, c'est dans un instant. À 12h55, sur le carnet des solutions de Philippe Bertrand, le bocage à la patate, quand des collectifs investissent les jardins communaux pour cultiver des légumes. À 13h, une météo qui donne le sourire, puis un journal complet. 13h30, le virus au carré. Quel est le profil des malades du Covid? Question cruciale pour bien poursuivre le déconfinement. Le clin d'œil du jour, rassemblement de plus de 10 personnes interdit, certes, vous le savez, ça n'empêche pas de jouer à la pétanque. Écoutez des boulistes heureux mais prudents à Marseille.
Il faut faire attention à prendre ses propres boules. Et puis à pas être le nez sur le bouchon, à mesurer des points trop près, bon ben voilà.
On essaye de pas avoir trop de spectateurs pour pas dépasser les 10 personnes.
On se lave les mains avec du savon et puis après on passe un peu de désinfectant là sous les mains. J'ai tout ce qu'il faut dans la voiture.
Voilà, nous sommes à distance mais tout proche, c'est la définition de la radio. C'est parti pour 1h30.
France Inter, midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
Et au standard de France Inter, nous attend Karim. Bonjour Karim.
Bonjour.
Tu as 10 ans, tu es élève en CM2 dans les Yvelines. Tu as repris l'école hier, c'est bien cela?
Oui.
Comment s'est passée la journée d'hier? Qu'est-ce que vous avez fait, Karim, hier à l'école?
À l'école, je suis arrivée.
Ouais.
Et il fallait se mettre devant sa classe en colonne et retenir un code pour réussir à entrer dans sa classe.
Oui.
Après, on s'est plus lavé les mains qu'on a travaillé.
Oui.
Ouais. Donc, après, ça restait bien, mais à la récréation, par exemple, on faisait pas beaucoup de jeux. Par exemple, on faisait des 1, 2, 3 soleils.
Oui.
On faisait des courses et on faisait des lucky-lucky.
Et de quoi vous avez parlé avec les enseignants? Qu'est-ce que le maître ou la maîtresse t'ont dit? Vous avez parlé du virus? Est-ce que vous avez déjà fait des maths, du français, de l'histoire? Comment ça s'est passé en cours?
Ça s'est passé comme d'habitude, juste que le lundi, j'ai un maître de CM1.
Oui.
Et que le mardi,
oui.
Et j'ai ma maîtresse. Et que notre classe, elle est mélangée avec 2 classes de CM1 et 1 classe de CM2.
Donc, t'as pas tes enseignants toujours habituels?
Non, et que je travaille que le lundi et le mardi.
Et encore une question, et après je te laisse tranquille. Est-ce que t'as l'impression d'avoir un petit peu, comment dire, perdu, d'avoir un petit peu, pas décroché de l'école, ce serait trop fort comme mot, mais d'avoir un petit peu perdu ton niveau au fil des semaines là qui se sont passées avec l'école à la maison?
Je sais pas trop, mais pour l'instant... je crois pas que j'ai perdu un peu le fil.
Bon, eh ben c'est parfait. On te souhaite bon courage, Karim. Merci d'avoir appelé au standard de France Inter.
De rien.
Et à bientôt. Eh bien, puisque Karim est en CM2, on va tout de suite faire réagir un de nos premiers invités, qui est professeur en CM2 à l'école Saint-Bernard à Paris. Bonjour Antoine Baïf.
Bonjour.
Est-ce que vous avez repris, vous?
Oui, depuis jeudi dernier.
Et alors, puisque notre sujet, c'est le fond des enseignements, depuis jeudi, qu'est-ce que vous avez fait avec les élèves? Au-delà de l'organisation, les 4 mètres carrés autour des élèves, etc., la cour de récré, sur le fond, qu'est-ce que vous avez fait?
Le contenu des enseignements, de toute façon, n'a pas changé par rapport à ce qui se faisait avant et ce qui se serait fait si la situation était normal, on va dire.
Oui.
Donc on a continué à consolider les acquis des élèves pour leur permettre une approche du collège dans des bonnes conditions, on va dire.
Vous avez l'impression que les élèves ont perdu ou vous avez retrouvé des élèves à un niveau qui est à peu près équivalent à ce qu'il est habituellement à la mi-mai?
Les situations sont très différentes,
oui,
en fait.
Oui.
C'est que Certains d'entre eux, parce qu'ils sont dans un environnement qui le permet, ont pu maintenir effectivement le niveau qu'ils avaient avant, on va dire. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y en a certains dont la situation sociale est plus compliquée. Enfin, soit les parents ne peuvent pas les aider à la maison, ou les situations matérielles parfois peuvent être vraiment compliquées aussi. Oui. Donc c'est vrai que ceux-là sont plus fragilisés et reviennent. C'est à eux qu'on a proposé de revenir en priorité, oui, à l'école. Oui. Enfin, entre autres, ils font partie des élèves prioritaires, oui, parce qu'ils sont plus fragiles et qu'ils risquent plus que les autres de souffrir de cette situation.
Vous avez combien d'élèves face à vous ?
En ce moment, une petite dizaine.
Et comment continuez-vous à suivre les autres ? Et est-ce que c'est les mêmes cours ? Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Vous donnez les mêmes devoirs aux uns et aux autres ?
Oui, alors c'est sûr que il est difficile de faire deux ou trois journées en une. Oui. Donc globalement, ce qu'on a nous décidé au sein de l'équipe pédagogique à laquelle j'appartiens, oui, c'est effectivement de donner la même chose à ceux qui sont à distance qu'à ceux qu'on a en face de nous. Oui. Maintenant, c'est dans la forme, c'est forcément un peu différent parce que ceux qu'on a en face de nous, on voit bien effectivement, comme on faisait avant le confinement, on voit les moments où c'est pas forcément très clair et ils ont besoin d'une petite explication supplémentaire. Donc c'est ce retour-là qui manquait en fait pendant le confinement, où malgré tous les efforts qu'on pouvait déployer, en donnant des corrections, en communiquant avec les parents, on peut pas toujours effectivement percevoir la difficulté face à une chose en particulier. Oui, alors que en les ayant en direct en face de nous, là voilà, on connaît nos élèves et on voit quand ça va pas.
Alors effectivement, c'est chaque équipe pédagogique au sein de chaque école qui décide ce qui se passe dans les semaines à venir. Néanmoins, est-ce que vous avez eu des consignes générales du rectorat, voire du ministère, disant dans les 6-8 semaines à venir, il faut mettre le paquet sur les maths, le français, telle ou telle discipline? Est-ce que vous avez eu des consignes de cette nature?
Disons que de toute façon, effectivement, l'idée c'est vraiment bien de consolider, de s'occuper du plus important, si on peut dire comme ça. Enfin, ouais, c'est pas que le reste ne le soit pas, mais c'est vrai que de toute façon, il y a pas mal de temps qui est libéré parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne sont plus possibles. Enfin, ouais, je pense notamment à des activités physiques, ouais, qui pouvaient prendre pas mal de temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc c'est vrai que là l'idée c'est vraiment de se recentrer sur les fondamentaux, les maths et le français, pour permettre à tous d'arriver dans de bonnes conditions à la fin de l'année et de commencer l'année suivante avec un bagage solide.
Ça veut dire très concrètement que par exemple l'anglais, qui est de l'ordre de l'initiation en élémentaire, l'anglais on le laisse de côté jusqu'à la fin de l'année?
Ça veut, enfin,
pas forcément.
On peut, ouais, éventuellement. Ouais. C'est, disons que c'est compliqué aussi quand on est de toute façon quand on passe 6 heures ensemble dans la salle de classe avec le petit groupe d'élèves. 6 heures de français et de maths. Il y a des moments aussi où ils ont besoin de souffler, d'un petit moment de rupture, d'autres choses aussi.
Bien sûr.
Donc je pense que c'est nécessaire de toute façon de continuer un petit peu à balayer l'ensemble du programme, ouais, essayer de faire le maximum de choses. Après, c'est vrai que les contraintes matérielles nous imposent aussi un certain nombre de gestes qu'on n'avait pas forcément à faire, ouais, qui prennent beaucoup plus de temps. Ouais. Donc c'est sûr que sur le déroulé de la journée, ce qui prenait très peu de temps avant, là, va prendre une dimension plus importante. Donc, effectivement, on aura moins de temps quand même pour un certain nombre de choses.
Au Standard de France Inter, nous sommes maintenant avec Gabriel, une autre élève qui est en 6e. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
6e à Ribérac, en Dordogne. Reprise hier aussi pour toi, Gabriel. Comment ça s'est passé, la reprise ?
Ben, ça s'est bien passé. J'avais hâte de retrouver tous mes copains et mes copines. Et pas tous, parce qu'il y en avait certains qui étaient restés chez eux. Mais la plupart d'entre eux étaient là.
Vous étiez combien dans ta classe?
7.
Et comment s'est passée la journée? Alors d'abord, quoi de différent par rapport à une école habituelle? Comment ça, le décor, disons, de l'école, c'était comment?
Ben, il y avait beaucoup de dessins marqués au sol, de dessins marqués au sol, et des flèches, et il fallait beaucoup se laver les mains, et voilà. Et aussi les masques.
Et aussi les masques. Ah oui, toi, tu dois mettre un masque à l'école, y compris en cours.
Oui.
Est-ce que c'est gênant?
Oui, c'est gênant, et ça fait, des fois, ça fait mal à la tête.
Ouais. De quoi avez-vous parlé avec les enseignants? Comment s'est passée la journée?
On a travaillé et au bout d'un moment, il y a eu les infirmières qui nous ont expliqué comment bien se laver les mains et comment bien porter le masque et comment bien tenir les distances entre les autres.
Est-ce que vous avez déjà eu le temps de faire cours du français, des maths, de l'histoire, de la physique, ou pas hier et peut-être pas ce matin, si tu étais à nouveau en cours ce matin?
Hier, oui, j'ai fait de l'EPS, j'ai fait du français, des maths et de la physique chimie. Et de la technologie.
Et t'as l'impression d'avoir la période qui s'est déroulée là, les deux derniers mois, tu as l'impression d'avoir continué à apprendre des choses? C'était difficile? Comment ça s'est passé pour toi?
C'était bien. J'ai bien aimé, mais sinon tout va bien. J'ai appris des choses, oui.
Merci Gabriel de nous avoir appelé au 01 45 24 7000 et on a un enseignant en 6e avec nous. Bonjour Emmanuel Grange.
Oui, bonjour.
Prof d'histoire géo au collège Valdec-Rousseau de Firminy dans la Loire, département 42. Vous enseignez justement en 6e. Vous avez repris vous aussi?
Oui, hier j'ai repris avec des classes de 6e et de 5e et j'ai fait cette reprise en co-animant avec une collègue de PS.
Et alors?
Et alors, ça s'est bien passé. Moi, j'entends votre jeune auditrice qui dit que ça s'est bien passé. Et nous, on rattaque avec 30% des effectifs de façon globale, si on compte de la 6e à la 3e.
Oui.
70% des parents ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école, mais 30% le souhaitent. Par contre, sur les niveaux 6e, 5e, c'est 20-25% de retour d'élèves. Et on avait du coup dans nos salles de classe des effectifs très réduits, et entre 5 et 10 élèves.
Et avec des élèves de niveaux très, très différents. Une des questions qui se pose, c'est, au fond, il y a des élèves pour qui la période a été beaucoup plus dure, qui arrivent en ayant perdu des notions, qui ont besoin de se remettre en position d'élève, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les autres d'un nivellement par le bas, au fond, pour ceux pour qui tout va bien, de nivellement par le bas?
Non, moi je crois pas. Et puis c'est un discours qu'on entend souvent, et même hors période de confinement, on dit souvent que on nivelle par le bas à l'école, et non, on nivelle pas par le bas. Pendant cette période de confinement, on a utilisé des outils numériques qui nous permettaient de donner vraiment des activités très différenciées, et un élève qui avance très bien, on lui en donne plus. Et avec un élève qui a plus de difficultés, on a un enseignement qui va à l'os, qui va à l'essentiel.
Ouais.
Et on est capable de s'adapter aussi bien à distance dans une salle de classe habituelle, si vous voulez.
Ouais.
Et par contre, nous, on a rattaqué quand même lundi en demandant aux élèves de raconter leur confinement.
Ouais.
On avait préparé une activité très simple où ils devaient choisir un lieu, un moment, 5 objets qui étaient propres à chacun. Et les profs ont joué le jeu comme les élèves. Et on a d'abord accueilli cette parole de l'élève pour qu'on puisse redémarrer ensuite les enseignements disciplinaires qui n'étaient clairement pas au centre de nos préoccupations hier.
Je crois que vous, le prof d'histoire, allez devoir faire un petit peu cours de français parce que votre collègue de français n'est pas là, c'est bien ça? C'est aussi une des particularités de la période.
Bon, alors, moi non, parce que en fait, dans chaque établissement scolaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une réalité qui est particulière.
Ouais, ouais.
Et je crois que moi, je ne parle quand mon nom est
bien sûr, bien sûr.
De mon collège, et il faut vraiment pas entendre ce que je dis comme une vérité qui s'applique à tous les établissements. Parce que chaque chef d'établissement se retrouve avec une sorte de Rubik's Cube entre les mains, avec plein de contraintes différentes, et ils font tourner ce Rubik's Cube jusqu'à se trouver des solutions qui peuvent être complètement anéanties par des collègues qui sont en arrêt maladie, par des problèmes de personnel pour nettoyer les salles, parce que le respect du protocole sanitaire est fait à la lettre, voire au-delà. Et donc, il faut bien prendre tout ça en considération.
Il me semble que le programme d'histoire en sixième, ça part de l'histoire antique, ce qui est quand même très loin du coronavirus. Comment vous allez faire ? Vous allez vous réattaquer à ce programme-là, où il y a une phase de transition. Comment ça va se passer ?
Bah écoutez, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que moi j'avais comme idée de travailler avec les sixièmes sur les grands récits mythologiques, et si on prend le récit de Dédale et Icare, qui est un récit d'enfermement, puisqu'ils se retrouvent bloqués au sein du labyrinthe, donc c'est un récit d'un isolement qui trouve une issue, puisque Dédale, regardant le ciel, trouve la solution et demande à son fiston d'aller récupérer toutes les plumes qui sont tombées. Mmh. Et on voit l'ingéniosité humaine pour sortir d'une période d'isolement, donc c'est ce qu'on connaît actuellement. Et on voit aussi, si on en tire un peu la métaphore, que Icare allant se brûler les ailes, son père lui avait bien dit de rester à bonne distance entre les eaux et le soleil. Et on est exactement dans cette position, nous, de fil de feriste pour l'instant, avec un avenir qui est très incertain. Et donc on peut faire de l'antique. Voilà, parler d'histoire sans aucun problème, je pense, et on peut investir beaucoup de champs. Moi, je ne manque pas d'idées, c'est pas parce qu'on est verrouillé avec moins d'élèves peut-être en présentiel et d'autres à distance, qu'on peut pas être inventif.
Deux questions concrètes. Faire court, masqué, est-ce que c'est un gros handicap, une grosse difficulté, petit 1 ?
Pour moi, oui, puisque j'ai fait ma rentrée avec beaucoup de buée sous mes lunettes et un masque qui glisse. Ouais. Donc, c'est une contrainte, quoi. Après, on en est dans un protocole qu'on respecte. On est aussi face à un collectif. Et on s'inscrit dedans, donc nous on porte le masque constamment au collège, c'est ce qui a été décidé aussi bien pour les enseignants que pour les écoliers, et je pense qu'aussi à partir d'un moment il faudra peut-être réévaluer les choses, voir si tout est tenable, parce que le protocole est très strict. Alors il faut aussi aller chercher un peu les espaces de liberté qu'ils nous laissent. Voilà. Ouais.
Et y aura des conseils de classe à la fin de l'année. Est-ce que y a des élèves qui devront redoubler ? On redouble beaucoup moins qu'avant, mais y aura des conseils de classe avec un vrai verdict à la fin de l'année ?
Oui, bien sûr. Le travail enseignant est par nature assez solitaire, et on doit aussi apprendre de cette période à travailler toujours plus en collectif, et c'est ce qui a été en fait le cas pendant ces deux mois de confinement. Mais il y aura des conseils de classe. Alors après, nous verrons comment on les organise, mais on a fait des réunions en visioconférence qui sont jamais optimum. Il vaut mieux se voir en vrai pour avancer, mais il y aura des conseils de classe. Moi, je suis professeur principal de 3e. Ce matin, j'étais encore avec une maman sur des questions d'options. On discute évidemment de tout l'avenir de nos élèves. Et il y aura ce moment de réunion pour qu'on puisse décider de cet avenir-là.
Merci beaucoup Emmanuel Grange. Restez avec nous avant d'entendre notre troisième invité, Mayanen Lemaire. Un petit tour au standard. Alexandre est enseignant en histoire-géo lui aussi. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Collège-lycée, c'est bien cela ?
En collège et en lycée, oui.
Ouais, et vous dites que à ce stade, c'est de l'ordre du soutien ce que vous faites dans les établissements.
Voilà, tout à fait. Mmh. Quand on va recevoir les élèves en classe, on va prendre le temps d'abord de les écouter. On va prendre le temps de les questionner sur la période qu'ils ont vécue, sur ce qu'ils ont ressenti, sur leur façon de voir un peu cette période du confinement. Et puis ensuite, on va rebrancher un petit peu ce qu'on a fait avec eux en distanciel, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps pour relire des cours, pour apporter du soutien, de la remédiation, pour répondre à leurs questions, en fait.
Vous les avez vus déjà ou pas encore ?
Non, nous, pas encore dans mon collège. Pour l'instant, on a passé du temps en réunion à préparer ce retour des élèves.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Alexandre. Bonjour, Mayanen Lemaire.
Bonjour.
Vous êtes professeur de CM1 à l'école élémentaire Les Marins de Châteauroux. Vous êtes également co-secrétaire du syndicat SNUIPP dans l'Indre. Est-ce qu'on va apprendre, alors donc CM1 en ce qui vous concerne, est-ce qu'on va apprendre de nouvelles notions d'ici à l'été dans votre classe de CM1 ?
Alors, il y aura des nouvelles notions qui seront abordées, des notions dites plutôt faciles qui auront déjà été abordées en CE2.
Oui.
Mais il y a certaines notions que je n'aborderai pas. C'est un choix. Mes collègues de CM2 sont au courant. Par exemple, la technique opératoire de la division, je ne l'aborderai pas parce que actuellement, j'accueille 8 élèves sur 25.
Et quel est votre premier ressenti après les quelques jours d'enseignement pour l'instant ?
Alors, je suis rassurée parce que la préparation de l'école, la préparation du retour physique des élèves a été assez anxiogène. On a quand même une grosse responsabilité sur les épaules. Et finalement, d'avoir eu du temps pour s'organiser, pour réfléchir, pour mettre en commun nos idées, nous a permis d'avoir une proposition efficace dans l'école actuellement.
Je reviens sur ce que vous disiez à propos de la division. Ça veut dire que cet apprentissage-là devra être fait en CM2. Ça veut dire que le programme de CM2 pour les élèves va être un peu plus chargé encore ?
Pas tout à fait, parce que si on se penche sur nos programmes, on est sur une logique de cycle. Et nous, le CM1, CM2, 6e, c'est un cycle 3. Donc les compétences peuvent être construites sur 3 ans. Ouais. Donc finalement, on peut imaginer que le partage équitable, ils le connaissent, et que la division pourra être abordée en CM2 sans que ce soit un retard scolaire.
Est-ce que dans le contexte actuel, votre façon d'enseigner change fondamentalement ? Je vous donne un exemple très personnel. Mon fils me dit « Papa, on ne va plus au tableau depuis la reprise ». Qu'est-ce qui change vraiment dans la manière d'enseigner dans le contexte actuel ?
Alors effectivement, mes élèves ne viennent plus au tableau non plus, à leur grand désarroi, parce qu'ils aiment bien quand même venir au tableau. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme avant, par exemple se pencher sur un cahier, aiguiller avec le doigt. On est obligé de respecter cette distance physique des 1 mètre, le port du masque. Alors on développe d'autres outils, notamment des outils numériques, des applications. Voilà, on essaie d'innover, d'expérimenter et de tirer le meilleur de cette période qu'on n'avait jamais connue jusque-là.
Évidemment. Antoine Baïf, professeur de CM2, École Saint-Bernard à Paris. CM2, juste avant la 6e, c'est une classe pivot. Qu'est-ce que vous leur dites à propos de la 6e ? Est-ce qu'il y a un risque que l'entrée en 6e soit un peu plus difficile dans le contexte actuel pour vos élèves ?
C'est vrai que d'habitude, les années précédentes, on avait l'occasion d'avoir une liaison vraiment concrète avec le corps.
Ah, liaison perdue avec Antoine Baïf. Est-ce qu'on l'a retrouvé ? Non, petite rupture de liaison. Eh bien, nous allons peut-être terminer cette demi-heure avec Victor, un autre élève de 6e. Bonjour Victor.
Bonjour.
Tu es rentré hier, je crois.
Oui.
Et pour dire les choses, ça s'est pas bien passé pour toi ?
Ah non, absolument pas.
Pourquoi ?
Eh bien, on est obligé de porter un masque toute la journée, c'est désagréable. Il y a des sens de circulation, on reste dans une même salle toute la journée.
Ouais.
Et on doit tout laver les mains.
Et du coup, tu aurais préféré rester à la maison et tu te dis que tu aurais peut-être appris plus de choses si tu étais resté à la maison ?
Oui, parce qu'on n'a plus que 2 cours par jour et donc on doit rattraper le travail qui est donné par les autres professeurs.
Et c'est-à-dire rattraper le travail donné par les autres professeurs. Tu as une partie de cours au collège et à la maison, tu as encore d'autres choses à faire, c'est ça ?
Oui.
Comment tu penses que ça va se passer ? Est-ce que tu vas devoir travailler cet été, par exemple, pour rattraper ce qui n'aura pas été fait ? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attends à faire ?
Je n'espère pas, mais bon, on sait pas trop, on verra en fonction de ce qui va se passer avec les profs.
Merci Victor d'avoir appelé. Allez, une dernière question peut-être à Emmanuel Grange, professeur d'histoire géo au Collège Valdec-Rousseau de Firminy dans la Loire. Il faudra travailler un peu plus différemment cet été ou avoir les mêmes habitudes que les autres années ?
Il faut surtout que les vacances soient reposantes.
Ouais.
On a quand même, moi je suis papa aussi de 2 enfants et ils travaillent. C'est vrai que c'est pas le cas pour tous. Il y aura sûrement des dispositifs dans certains territoires français pour venir en aide à ceux qui ont pu perdre pied et qu'on a vraiment qui sont sortis des radars pendant cette période. Mais les vacances sont là aussi pour se reposer et il faut bien se dire qu'on tiendra compte de cette période très particulière pour la suite.
Et quel conseil donnez-vous aux parents pour les semaines à venir et pour l'été ?
Ah bah écoutez, moi je peut-être sur la reprise de l'école, je peux leur dire en tout cas que le protocole sanitaire garantit qu'un maximum de précautions est pris et qu'il faut aussi arriver à se dire que que certains ont besoin d'aller à l'école expriment. Moi, j'étais en classe virtuelle avec des élèves ce matin et certains veulent retourner. Certains me disent qu'il faut chasser les peurs. Hein. C'est des mots de Kémy, l'un de mes élèves. Ouais. Et après, c'est très différent parce que les angoisses parentales se transfèrent aussi à des enfants. Ces angoisses, nous, on les comprend complètement et on comprend aussi les angoisses des collègues. Mais à un moment donné, nous, on pense que cette période-là est utile pour penser le mois de septembre.
Voilà.
Parce que si on n'était pas rentré aujourd'hui, on aurait eu deux grands mois de rumination estivale au niveau de l'équipe. Des équipes pédagogiques de direction pour se dire mais comment on va faire concrètement. Là, sur le terrain, on voit un petit peu plus.
Et c'est plus clair pour la rentrée de septembre. Merci, merci beaucoup à nos invités et aux auditeurs, jeunes auditeurs aujourd'hui, qui nous ont appelés au 01 45 24 7000. 12h55, c'est l'heure du carnet de solutions de Philippe Bertrand avec ce titre, le bocage à la patate. Dans les Deux-Sèvres, des collectifs investissent des terrains communaux pour y produire des légumes. Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour et bonjour Bruno. Le nom du collectif Le Bocage de la Patate traduit bien la dynamique qu'il souhaite insuffler. Parti de l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un groupe d'amis des Deux-Sèvres a décidé d'imaginer un programme d'alimentation participatif et de longue durée. Kevin Certonnet, bonjour.
Bonjour.
Kevin, vous faites partie de ce mouvement qui se veut de longue durée. Votre action repose sur des prêts de terrain par des communes qui ont répondu à votre appel.
Oui, ça fait un mois et demi qu'on travaille à cela. C'est appuyé sur une action qu'on a fait il y a 2 ans, ZAD à la patate, pour soutenir les habitants de la ZAD suite aux expulsions qu'il y avait. Et on a pris contact avec des communes. Et il y en a 3 d'entre elles qui ont accepté. Elles ont mis à place pour une à Cerizet des jardins familiaux qui n'étaient pas occupés. Et pour 2 autres, Combran et Le Pin, on a signé des comodas, une convention à prêt d'usage gratuit. Et puis, on a lancé un appel à mobilisation pour qu'il y ait d'autres collectifs qui se mettent en place. Et aujourd'hui, on est à 8, voire un 9e qui s'installe là, sur le nord de Sèvres, entre Bressuire, Cerizet et Montléon.
Et les productions des jardins vont où ensuite?
On est en lien avec le centre socio-culturel de Cerizet, qui gère sur l'ensemble du canton l'épicerie solidaire. On est en lien aussi avec une association Vivre au Peu, qui est relié à Emmaüs. Et puis on réfléchit aussi en fonction de la crise économique et sociale qui va arriver et qui va s'amplifier, et de soutenir que ce soit des auto-entrepreneurs, des indépendants ou salariés qui seraient licenciés ou qui vont être au chômage.
Et vous prenez une sécurité sociale alimentaire. Que faut-il entendre par là ?
On se positionne en disant que un peu comme le régime général de la sécurité sociale a été créé après-guerre, où en fait c'était les ouvriers et les ouvrières qui géraient les caisses de sécurité sociale, on crée une nouvelle branche du régime général de sécurité sociale sur l'alimentation. Et nous, là, les 9 petits collectifs sur 9 communes, on se positionne en tant que futurs gestionnaires de ces caisses-là, avec des professionnels qui seraient conventionnés. Donc on retrouverait des paysans là qui sont déjà dans les collectifs, mais aussi les ouvriers, ouvrières de la transformation, des abattoirs, de lieux d'épicerie, etc. Et donc, bien sûr, ces entreprises qui seraient conventionnées, on pourrait pas retrouver, par exemple, Leclerc ou Carrefour, qui se sont fait le chou gras là pendant le confinement. Il y aurait des critères économiques non capitalistes qui permettraient de conventionner et soutenir en fait des paysans et des collectifs de travail en autogestion.
Et on peut aider le collectif Bocage à la Patate en donnant des plants, des semences, un coup de main aussi. Il y a un questionnaire en ligne que vous allez trouver à la page Facebook des carnets de campagne et vous pouvez vous inscrire pour participer à ce mouvement. Merci Kevin.
Merci beaucoup à vous.
Ma femme n'arrête pas de me dire que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, vu que je suis avec elle. Ça la fait rire. Mais là, je dois choisir notre fournisseur de gaz naturel. Donc, quelqu'un peut m'aider ?
Oui, bien sûr. Vous pouvez choisir Engie, qui est le premier fournisseur de gaz naturel en France. Et en ce moment, et jusqu'au 31 mai, bénéficiez de moins 20% sur votre abonnement pendant un an sur l'offre gaz énergie garantie 2 ans. Appelez vite le 3101. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie. Voir conditions sur infogaz.engie.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Bouygues Télécom. En ce moment, ce sont les bons plans du printemps chez Bouygues Télécom. Le nouveau Samsung Galaxy S20 4G avec son appareil photo intelligent est à seulement 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70 Go. Idéal pour capturer les retrouvailles avec vos proches. Et parce que chez Bouygues Télécom, nous avons hâte de vous retrouver, nos boutiques sont ouvertes et nos conseillers mobilisés pour vous accueillir en toute sécurité. Alors à très vite. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile de 68,90€. Engagement 24 mois.
À 12h59, nous retrouvons Jean-Michel Golinski, Météo France. Bonjour Jean-Michel.
Bien le bonjour.
Du beau fixe à perte de vue, Jean-Michel.
C'est vrai, beau et plus chaud que la normale, le temps de ces prochains jours, mais avec le maintien cet après-midi d'une ambiance menaçante sur la Corse et la région PACA, avec des averses parfois de grêle et orageuses, et puis le Mistral et la Tramontane seront sensibles. Les températures de l'après-midi seront proches de 30 degrés sur les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Gard, de 27 sur l'Alsace et le Dauphiné, et généralement entre 24 et 26 sur le reste du pays.
France Inter, il est 13h. Mardi 19 mai 2020, dans l'actualité aujourd'hui, un parfum de fronde en Macronie. 17 députés forment un nouveau groupe à l'Assemblée nationale. Le groupe En Marche perd donc sa majorité absolue. Symboliquement, c'est important, mais entre le Modem et d'autres élus, il reste une majorité centriste pour soutenir le gouvernement. Nous en parlons avec notre invité, le député En Marche, Roland Lescure. Le second tour des municipales pourra-t-il se tenir fin juin? Réponse du Conseil scientifique, pas d'opposition, mais il faudra une réévaluation en fonction de l'épidémie. Voir comment cette épidémie évolue. Quels espoirs, quelles limites après l'annonce du laboratoire américain Moderna à propos d'un vaccin? La première phase d'essais cliniques, toujours en cours, donne des résultats prometteurs. C'est le tout début, très peu de patients. Véronique Julia détaillera tout cela. Dans l'actualité encore, vers la reprise en tout petit groupe des célébrations dans les lieux de culte, demande du Conseil d'État, nous irons à Périgueux, l'archevêque se prépare. La plainte en justice du UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, 20 compagnies aériennes assignées pour les contraintes à rembourser les billets annulés.
On demande au tribunal concrètement de contraindre les compagnies à offrir le choix aux passagers entre un remboursement en argent et en avoir.
L'actualité, c'est aussi soutien ton club, appel aux dons dans le monde du sport. Nous vous donnerons les détails. Et puis à 13h30, le virus au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Aujourd'hui Mathieu, une question importante pour bien mener le déconfinement.
Oui, quel est le profil des personnes les plus à risque face au Covid-19? On essaie d'établir leur portrait avec l'épidémiologiste Dominique Costagliola qui répondra à toutes vos questions.
Question à 13h30, non, question dès maintenant au 01 45 24 7000 et le virus au carré, ce sera à 13h30. Ensuite, il y aura vos messages sur le répondeur, le choix musical d'Antoine Decaune. Puis une histoire de sport, comme chaque mardi avec Philippe Collin, pour vivre un peu toutes ces compétitions annulées. Aujourd'hui, faute de Roland-Garros 2020, le destin d'une grande championne française de tennis oubliée, Marguerite Brodkis.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
C'est un des sujets très délicats en ce moment pour le gouvernement et toute la classe politique. Le second tour des municipales doit-il se tenir fin juin ou être reporté? Le premier tour a eu lieu juste avant le confinement, accompagné des polémiques que l'on connaît. Alors à propos du second tour, l'avis du Conseil scientifique était attendu. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Vous avez les détails, Daniel. Que dit cet avis du Conseil?
Alors c'est avec humilité, notez bien le terme, que le Conseil scientifique a rendu cet avis. Nous ne sommes en effet qu'à 8 jours après la sortie du confinement. Et même si la situation sanitaire s'est améliorée, elle demeure incertaine pour les semaines à venir. Et ce, d'autant que le vote a lieu dans les écoles et qu'elles connaissent déjà des protocoles sanitaires contraignants. Alors, si des élections sont organisées, le Conseil distingue plusieurs parties. Le dépôt des candidatures, en sous-préfecture seulement, après prise de rendez-vous, port obligatoire du masque. La campagne électorale, elle devra être profondément modifiée. Le Conseil souligne les risques majeurs de rassemblement, porte-à-porte, réunion et préconise un usage numérique. Le vote, privilégier la procuration pour les personnes à risque, la validité de celle du premier tour pouvant être prolongée. Le scrutin en lui-même, pas de personnes à risque ou âgées parmi les membres du bureau de vote, la mise en place d'une file spéciale pour les électeurs à risque, un port de masque préconisé pour les électeurs, obligatoire pour les assesseurs. Enfin, pour le dépouillement, un nombre très limité de personnes et toujours évidemment le port du masque et un lavage régulier des mains. Alors il faudra de toute façon, conclut le Conseil, tenir compte de la situation sanitaire 15 jours avant la date décidée par les autorités et donc réévaluer.
Merci Daniel Messager. Donc une nouvelle évaluation avant un éventuel second tour des municipales fin juin. Le gouvernement souhaite également que le Parlement prenne position, la majorité et l'opposition. Consultation des les responsables politiques demain. Un débat avec un vote est également envisagé dans les semaines à venir. Vote dont ne veut pas l'un des ténors de la droite, Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est à l'exécutif de décider, dit-il. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Député En Marche des Français de l'étranger et président de la Commission des affaires économiques. On parlera de ce nouveau groupe qui vient de se créer à l'Assemblée dans un instant. D'abord, Roland Lescure, question claire de votre point de vue. On vient d'entendre l'avis du Conseil scientifique. Le second tour doit-il avoir lieu fin juin?
On aimerait qu'il ait lieu.
Oui.
Le Conseil scientifique l'a dit, votre confrère vient de le répéter. C'est un 8 mai qu'il nous a donné ce matin. On sait que les 2 à 3 semaines qui viennent vont être extrêmement importantes pour s'assurer qu'on réussit le déconfinement. Si on réussit le déconfinement, on les organisera dans une logique quand même assez dégradée, on vient de le dire, avec une campagne très compliquée à mener, et puis des opérations de vote et de dépouillement qui, elles aussi, seront extrêmement compliquées. Donc, oui, mais je pense que c'est ce qu'on peut dire à ce stade.
C'est une décision très difficile à prendre. Honnêtement, on n'aimerait pas être à la place des gens qui vont la prendre. Donc, chacun est conscient des difficultés. Il y a en même temps un petit côté, tout le monde se refile la patate chaude avec l'opposition qui veut pas d'un vote, le gouvernement qui veut absolument associer l'opposition pour que la décision soit prise. Il faut un vote à l'Assemblée?
En tout cas, on aimerait bien pouvoir converger vers un consensus. L'idée, c'est pas faire de la politique sur un événement qui est un événement démocratique important. Les maires souhaitent évidemment être élus pour pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire la commande publique, la relance de l'économie. Nous-mêmes, on préférerait aussi pouvoir passer à autre chose. Mais il faut pas que ça fasse l'objet d'un débat, je dirais, politicard. Et pour éviter ça, le mieux, c'est de créer du consensus. Et un vote, ça permet aux gens de se prononcer de manière claire. Oui, non, ou abstention, ce qui serait quand même une surprise. Et donc, ça permet, je pense, de construire ce consensus.
Mais on est d'accord que la responsabilité de la décision relève du gouvernement et du président de la République.
Bien sûr, et je pense que le président de la République et le gouvernement n'ont pas renié leur responsabilité. Je pense qu'ils les ont prises depuis 2 mois et demi sur plein de sujets. Mais associer le Parlement, les oppositions nous reprochent souvent de ne pas le faire assez. Moi, je pense que c'est la moindre des choses.
Alors, Roland Lescure, la dernière partie du quinquennat se complique peut-être un peu plus pour le président de la République et le gouvernement. Il y a l'épidémie, il y a la crise économique massive. Et puis, dans ce contexte, les députés En Marche n'ont plus à eux seuls la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On va en parler ensemble. Je voudrais qu'on entende d'abord les précisions de Karine Bécard. 17 députés, des marcheurs, des ex-marcheurs, sensibilité gauche ou écolo, forment donc un nouveau groupe indépendant à l'Assemblée. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a plus de majorité pour voter ces textes et réformes. D'autres élus centristes non marcheurs, le Modem par exemple, feront l'appoint comme ils le font depuis le début du quinquennat. Mais c'est tout de même une difficulté supplémentaire pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Alors la naissance de ce nouveau groupe, écologie, démocratie, solidarité, elle a été actée officiellement ce matin à l'Assemblée, Karine Bécard.
C'est vrai que c'est un sacré caillou dans la chaussure du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Ce 9e groupe à l'Assemblée est créé au moment même où le président ne cesse d'appeler à la France unie, donc c'est plutôt raté. Et puis ce qui est embêtant aussi pour Emmanuel Macron, c'est que ces 17 députés promettent de revenir à ce que devait être vraiment le macronisme, le député Hubert-Julien Laferrière.
Aucun de nous ici ne trahit ses engagements de 2017. Nos engagements de 2017, pour l'ensemble des députés qui sont ici aujourd'hui, ça reste notre boussole. Nous restons fidèles à cette ambition de construire des majorités de projets au service de l'intérêt général pour la transition écologique, pour la démocratie, pour la solidarité.
Autrement dit, ces 17 députés ne seraient pas des déçus, des aigris. Non, ce sont les vrais, les purs macronistes qui se permettront donc de voter ou de s'opposer à la politique de l'exécutif. Guillaume Chiche.
Si demain, l'exécutif gouvernemental ou Emmanuel Macron fait une sorte de grand virage d'acte 2 ou d'acte 3, comme c'est annoncé dans la presse, et que cela est utile pour nos territoires, bien entendu, nous le validerons. En revanche, si cela vient percuter l'orientation politique de notre groupe, alors nous nous opposerons.
Oui, maintenant contester à 17, c'est peu, me direz-vous, et c'est vrai, mais c'est une première brique qui vient d'être installée. Cette fois, l'aile gauche de la majorité a osé aller jusqu'au bout et ils viennent en réalité de créer un refuge visible, tangible pour tous ceux qui, à la REM, pourraient avoir envie de partir.
Toujours avec nous, Roland Lescure, député LREM des Français de l'étranger et président de la Commission des affaires économiques. Ce nouveau groupe, ça ravive de mauvais souvenirs. Tout de même, on se souvient des frondeurs sous François Hollande et de la difficulté, notamment à la fin du quinquennat Hollande, à faire passer les réformes à cause de cette fronde interne.
Oui, à l'époque, si je me souviens bien, il n'y avait pas de groupe différent, mais tout ça se faisait dans le groupe majoritaire. Oui. Vous savez, un parti qui a la majorité à l'Assemblée, c'est plutôt l'exception que la règle pendant la Ve République. Les parlementaires en question ont montré depuis 3 ans qu'ils savaient très largement s'affranchir des consignes de groupe pour voter selon leurs idées ou leurs convictions. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Karine Becker l'a dit, on a la majorité avec nos partenaires du MoDem, avec un certain nombre de parlementaires qui votent régulièrement avec nous. Ça clarifie la situation. Bon, après, la boussole du macronisme, personne n'en est dépositaire, en tout cas, pas ses 17 collègues, plus que les 288 qui sont aujourd'hui dans le groupe.
Ce qu'on entendait dans le sujet de Karine, là, c'est qu'ils se vivent comme de purs macronistes, ces 17. Juste, on les a pas assez associés depuis le début du quinquennat à la réflexion, à l'élaboration des lois. On paye ce manque d'écoute, ce manque d'association, Roland Lescure.
Écoutez, il faut toujours être deux pour danser le tango. Donc, si ça arrive, on a sans doute notre part de responsabilité. Mais moi, je suis parlementaire depuis 3 ans, j'ai pas l'impression de ne pas avoir été écouté. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup échangé, j'ai essayé de construire des consensus sur les sujets qui étaient les miens. Et puis, j'en ai gagné certains, des arbitrages, j'en ai perdu d'autres. Moi, je pense que la fidélité en politique, c'est important. Et que d'autre part, on influence beaucoup plus en étant à l'intérieur qu'en étant à l'extérieur. Ils ont fait un choix différent, on va voir ce qu'il en est dans les semaines, dans les mois qui viennent.
Comment faire passer les grandes réformes de la fin du quinquennat, l'hôpital, la dépendance, ça va être beaucoup plus compliqué tout de même.
Ben, d'abord, il faut les préciser. Vous savez que Olivier Véran a donné quelques lignes directrices sur l'hôpital dimanche. Le reste, ça va venir dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que moi, je considère que cette création de poste, de groupe, pardon, est un peu incongrue dans son calendrier. Mmh. On attend, évidemment, des grandes directions qui seront sans doute données par le président dans les semaines, dans les mois qui viennent, sur ce que vont être ces 2 ans qui doivent être avant tout utiles et efficaces de sortir de la crise. Mmh. Sortir maintenant, bon, moi je suis un peu surpris de cette démarche qui finalement du coup d'ailleurs réunit peut-être moins de parlementaires que l'espoir initial. On va attendre les grandes orientations sur lesquelles d'ailleurs nous on travaille en collaboration avec l'exécutif, on fait passer nos idées, je pense qu'elles seront entendues et puis ensuite il faudra effectivement faire le travail, c'est-à-dire aller à l'Assemblée, faire sans doute une déclaration de politique générale, la faire voter, puis là il faudra que les députés prennent leurs responsabilités, certains voteront pour. Certes, votre rencontre, et on se comptera à ce moment-là, mais moi, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'une fois que les directions seront bien identifiées, bien posées, on resserrera les rangs autour de ce nouveau projet.
Roland Lescure, vous qui dirigez la commission des affaires économiques, l'annonce d'Emmanuel Macron et Angela Merkel hier, 500 milliards, le plan de relance européen et un système de reconnaissance mutuelle de dette. La commission emprunte, les pays les plus riches peuvent payer pour les secteurs et les régions et les pays qui en ont le plus besoin en ce moment. Comment on va contourner les pays réticents dans les semaines et les années à venir? On voit déjà l'Autriche qui dit que ça ne lui convient pas, ce système-là. Comment mettre en œuvre ces annonces?
D'abord, c'est absolument historique. Ça fait 30 ans qu'on en parle. On avait essayé de le mettre en place en 2008. Ça commence à vraiment prendre forme parce que ça fait 60 ans que ça dure. Quand la France et l'Allemagne sont d'accord, en général, on arrive à ramener tout le monde. Mais c'est vrai que, vous le dites, il y a un certain nombre de pays qui restent encore réticents. Je pense que certains pays du Sud auraient préféré que ce soit plus. D'autres auraient préféré que ça n'arrive pas. Donc, il y a encore quelques semaines de travail. On aura un sommet européen sans doute d'ici la fin du mois de juin. Il est probable que la nuit soit courte ce jour-là et qu'il faille obtenir un accord de tout le monde. Mais moi, je suis très confiant et vraiment, chapeau les artistes, quoi. À la fois Angela Merkel et Emmanuel Macron, aller tirer cet accord à un moment où l'Europe est en danger. Franchement, c'est un bien plus grand signal, pour moi bien plus important, que nos calembredaines parlementaires, je vais le dire comme ça.
Merci Roland Lescure d'avoir répondu à nos questions, député La République en marche à l'Assemblée nationale. Alors à propos de ces annonces hier d'Angela Merkel et Emmanuel Macron, revenons donc là-dessus, 500 milliards d'euros dans ce plan de relance de l'économie européenne. Et la particularité, ce serait donc la Commission de Bruxelles qui emprunterait au nom de l'Europe et redistribuerait ensuite aux pays, aux secteurs, aux régions qui en a le plus besoin. C'est bien une mutualisation, une mise en commun des dettes. Les pays les plus riches acceptent de payer pour les pays et secteurs en difficulté. C'est un changement de philosophie très important. Voilà pour l'éventuelle révolution, mais venons-en aux réticences avec vous, Bertrand Guélicher. L'Autriche, avant d'autres pays sans doute, mais déjà des bémols, Bertrand.
Premier pays à avoir manifesté ses réticences à l'initiative franco-allemande, l'Autriche. Sans surprise, le gouvernement de Sebastian Kurz fait savoir qu'il est favorable à des prêts pour aider les pays les plus touchés par les conséquences du coronavirus, mais pas question de subvention, précise-t-on à Vienne, qui s'oppose ainsi au projet présenté hier par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Des réserves partagées par plusieurs pays du nord de l'Europe. Lors d'une audition ce matin à l'Assemblée, Bruno Le Maire a cité le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, estimant que, comme pour l'Autriche, les convaincre sera une partie difficile. Dans l'Est de l'Europe, d'autres États demanderont des garanties. Il s'agit de pays plutôt épargnés par le virus, donc peu éligibles aux subventions du plan de relance franco-allemand. Ces États moins développés, qui bénéficient de fonds de cohésion européens pour rattraper leur retard économique, craignent de faire les frais de cette nouvelle politique de répartition de la manne distribuée par Bruxelles. Paris et Berlin devront faire preuve de pédagogie avant le prochain Conseil européen prévu dans un mois.
En Russie, le Premier ministre se remet pleinement au travail après, c'est ce qu'annonce le Kremlin, après avoir été touché par la maladie. Depuis le début de l'épidémie, une course au vaccin est lancée dans le monde entier. Chaque annonce de progrès doit être évidemment accueillie avec prudence. Il y a toujours une part de communication, surtout pour les structures privées, tenter d'attirer les investisseurs avec de bonnes nouvelles. Alors ces précautions étant prises, est maintenue. Intéressons-nous aux dernières annonces de la firme américaine Moderna. Elle annonce donc des résultats prometteurs pour son essai clinique. Première phase, toujours en cours. Le plus souvent, il y a 4 phases. Véronique Julia, en quoi consiste ce projet de vaccin? Quoi de prometteur dans les résultats et quelles limites?
En fait, les Américains de Moderna ont attaqué les premiers en testant dès le 16 mars une quarantaine de sujets sains avec 3 doses de vaccin. Les résultats évoqués portent sur 8 d'entre eux. Chez eux, le vaccin semble avoir suscité une réponse immunitaire, une production d'anticorps de même ampleur que ce qu'on observe chez des patients naturellement contaminés. Une annonce encourageante donc pour une technique très spécifique quand l'Institut Pasteur tente d'élaborer un vaccin à partir du virus de la rougeole, selon une méthodologie déjà plusieurs fois éprouvée. Moderna utilise, elle, une technologie plus expérimentale qui n'a jamais permis encore de mettre au point un traitement efficace. Il s'agit d'un vaccin dit à ARN messager. On injecte dans le bras le code génétique du virus. Notre corps va produire la protéine du virus, ce qui doit théoriquement permettre de déclencher une production d'anticorps pour le neutraliser. Cette première annonce aujourd'hui est une petite marche, mais le chemin est encore long. D'abord parce que ces premiers résultats portent sur très peu de sujets. Il va falloir tester plus de monde et vérifier si ces anticorps sont réellement protecteurs. La phase 2, qui doit impliquer plusieurs centaines de volontaires, est déjà lancée. Puis viendra la phase 3 avec plusieurs milliers de sujets dès le mois de juillet. Moderna rêve déjà de fournir des vaccins à des équipes soignantes dès cet automne. Un espoir qui entretient forcément l'intérêt des investisseurs. La valeur du titre en bourse a d'ailleurs plus que doublé depuis début avril.
Et dans la course au vaccin, un autre épisode important se joue depuis la semaine dernière. Le patron monde de Sanofi, Paul Hudson, déclarait la semaine dernière que le jour où son labo trouverait un vaccin, eh bien, il serait livré en priorité aux Américains parce qu'ils ont investi dans le programme de recherche. Alors même s'il a rétro-pédalé depuis, cela a provoqué un tollé dans la classe politique. On parle d'une firme française. Emmanuel Macron s'entretient cet après-midi avec Paul Hudson. Le contexte, c'est aussi un retour en vogue du concept de souveraineté depuis le début de l'épidémie, particulièrement en matière de santé. Et Cyril Graziani, l'entourage du président, veut convaincre qu'il est très attaché à cette notion de souveraineté.
En ce moment, il ne pense presque plus qu'à cela. Lors de son déjeuner vendredi avec des économistes, Emmanuel Macron leur a confié une mission, travailler sur comment relocaliser les productions en France et lesquelles. La crise a donné une actualité, une sensibilité plus forte à la souveraineté, avoue un proche conseiller du président. Mais cette priorité n'est pas une conversion pour Emmanuel Macron. Macron, ce n'est pas du souverainisme d'estrade, c'est la souveraineté du réel, balance un de ceux en qui le président a entièrement confiance. La souveraineté est dans l'ADN du chef de l'État, affirme un de ses amis, rappelant son passé chevènementiste, certaines de ses prises de position quand il était à Bercy, notamment quand il s'était opposé à la vente de Dailymotion à un concurrent hongkongais. Dans son discours de la Sorbonne sur l'Europe, Emmanuel Macron l'appelait déjà de ses voeux, trouver le juste milieu entre souverainisme national et européen, comme il l'a réexpliqué hier avec Angela Merkel, car attention, prévient un de ses conseillers, le but, ce n'est pas l'autarcie française.
Et alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à s'entretenir avec le patron de Sanofi, Donald Trump, lui, carbure à la chloroquine, un comprimé par jour en préventif. Le président américain est convaincu que cela éloigne le virus. Chloroquine, ce produit antipaludéen, est testé comme traitement, en particulier à Marseille, par l'équipe du professeur Raoult, sans résultat probant pour le moment. Et de la chloroquine, alors, à titre préventif, comme dans le cas de Donald Trump, un avis de médecin sur le sujet. Écoutez le docteur Gabriel Steg, il est cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris.
Aujourd'hui, on n'a aucune preuve que le traitement marche en préventif. On n'a pas encore de résultats. Et ça n'est pas un traitement totalement sans risque. puisque l'hydroxychloroquine fait partie des médicaments qui peuvent avoir des conséquences sur l'électrocardiogramme et faciliter le risque de trouble du rythme. Alors s'il prend un seul comprimé d'hydroxychloroquine, probablement c'est une dose faible et le risque est faible, mais ce risque n'est pas nul et en tant que cardiologue, je suis bien placé pour savoir que ça donne des troubles du rythme qui peuvent être très sérieux chez les gens âgés qui ont des cardiopathies sous-jacentes. Le président Trump est hypertendu, il a un certain âge, il a donc un risque cardiovasculaire qui n'est pas nul. Et prendre un traitement qui n'est pas totalement sans danger, dans une indication qui n'est pas validée, alors qu'il a des effets secondaires potentiels, sans que ça ait été indiqué par un médecin, visiblement il a demandé l'autorisation à son médecin de le faire. Le médecin lui a dit « si vous voulez, vous pouvez ». C'est assez étrange. Voilà, je trouve que c'est pas un bon exemple à donner pour la santé publique que de ne pas respecter les indications, les autorisations de mise sur le marché des médicaments et leurs indications validées. Ça me paraît pour le moins imprudent.
Propos recueillis par Daniel Messager, Donald Trump qui menace de couper définitivement les crédits américains à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au prétexte que l'OMS serait vendue à la Chine. Ce matin, Pékin l'accuse d'utiliser la Chine pour se soustraire à ses obligations. Et en Chine, justement, le parc Disneyland de Shanghai est le premier de la planète à rouvrir ses portes au public. Il a été fermé pendant plus de 3 mois. Il accueille à nouveau les visiteurs depuis une semaine. Reportage à Shanghai, Angélique Forger.
Devant le spectacle des personnages de Disney et l'apparition de la Reine des Neiges, le visage de Shi Wen, 5 ans, s'illumine. Sa maman, mère au foyer, n'a pas hésité. Quand elle a su que le parc avait rouvert, elle a réservé.
Pendant l'épidémie, j'étais déprimée, de mauvaise humeur. Donc le fait de venir ici, ça me rend heureuse. Et ma fille aussi est super contente.
Avec la réouverture, le parc reste sur ses gardes. Le port du masque est obligatoire. Et des marquages au sol rappellent les distances à respecter. Xiao Hui, employée d'une entreprise d'État, patiente pour le fameux train de la mine.
Nous devons respecter ces règles. Si Disneyland en Chine reste ouvert, qu'il n'y a pas de problème par la suite, alors nous pourrions servir de modèle pour les autres parcs dans le monde.
Dans les allées du parc, Fei Fei se fondrait presque dans le décor avec ses tatouages de Mickey qui recouvrent ses cuisses. Pour cette fan de Disney, si le parc a rouvert, c'est grâce à la gestion du gouvernement chinois.
Cette crise nous a appris que la liberté et la démocratie ne sont pas utiles dans ce contexte. Ce qu'il faut, c'est que la population ait conscience de ce qu'est l'intérêt du groupe. La priorité, c'est ça, pas les droits de l'homme.
Pour le groupe américain, cette réouverture était très attendue. Depuis le début de l'épidémie, les parcs Disney ont perdu 1,3 milliard d'euros au total. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
En France, l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte est disproportionnée. C'est l'avis du Conseil d'État qui demande donc au gouvernement de lever cette interdiction. Le délai donné est de 8 jours pour trouver une organisation. C'était une demande forte des catholiques en particulier. Mathilde Dehimy, avec Laurent Macchetti, vous avez rencontré ce matin l'archevêque de Périgueux qui prépare déjà la reprise, Mathilde.
Oui, la cathédrale de Périgueux était plutôt vide hein, ce matin, Bruno. Seules quelques notes d'orgue s'échappent des portes grandes ouvertes, mais les fidèles devraient pouvoir bientôt se rassembler de nouveau. Tout est prêt sur le papier, dit Monseigneur Philippe Mousset. Sens de circulation, espacement des chaises marqués pour ensuite être désinfectés et des prêtres tout équipés.
Les prêtres eux-mêmes, pour la célébration, avec le masque, du gel aussi, avant la communion. Et puis, sur les mains très tendues, et qui n'est pas de contact si on laisse tomber l'hostie à quelques centimètres sur la main. Et là, donc, il n'y a aucun risque de contamination.
L'archevêque de Périgueux et Sarlat avaient proposé avec l'Église de France un protocole à Matignon, retoqué à l'époque. Heureusement que le Conseil d'État rappelle aujourd'hui les principes fondamentaux, dit Philippe Mousset.
L'État n'a pas à s'immiscer sur l'autorisation de culte, il dépasse son droit. Cette dimension spirituelle, peut-être, elle a été présentée comme quelque chose de secondaire, donc l'économie d'abord, et je comprends que la question économique est très importante. Là, on se redit, mais punaise, la liberté religieuse de culte est une liberté fondamentale de la vie en société, et si on touche à celle-ci, on peut mettre en difficulté la vie même de la démocratie en France.
Il faut nous faire confiance, dit le prélat. Les messes se tiendront dans les plus grandes des 1000 églises du diocèse. L'archevêque de Périgueux n'a pas perdu de temps. Les prêtres ont commencé à être formés et constituent leurs équipes.
Merci Mathilde Dehimy en direct de Périgueux avec Laurent Macchetti. Haut lieu religieux dans le monde, l'esplanade des mosquées à Jérusalem va rouvrir après le ramadan, annonce faite ce matin. Pour obtenir remboursement des billets d'avion annulés à cause de l'épidémie, il va sans doute falloir forcer un peu la main de certaines compagnies aériennes. Rappelons la règle européenne. En cas d'annulation, c'est nouvel itinéraire proposé, un avoir ou le remboursement. Et si le voyageur choisit cette troisième solution, eh bien la compagnie ne peut pas s'y opposer en principe. Manifestement, ça n'était pas aussi clair. Alors l'association de consommateurs UFC Que Choisir poursuit en justice 20 compagnies, dont les françaises Air France, Corsair, Transavia et Air Corsica. Écoutez, Raphaël Bartholomé, il est juriste chez Que Choisir.
On a choisi de se concentrer sur les 20 premières compagnies en termes d'importance de trafic aérien. Les autres, on les oublie pas, mais la première séquence, ce sont ces 20-là. Les passagers sont piégés, ils ne récupéreront pas leur argent. On leur dit, on peut pas ou on doit garder cet argent pour couvrir nos frais, mais les passagers n'ont pas à refinancer le secteur du transport aérien, n'ont pas à couvrir les dettes éventuelles les frais des compagnies aériennes. On demande au tribunal concrètement de contraindre les compagnies à offrir le choix aux passagers entre un remboursement en argent et en avoir. Elles auront l'ordre d'un juge sous peine d'astreinte, c'est-à-dire sous peine d'une sanction par jour de retard.
Un propos recueilli par Philippe Lefebvre, et parmi les 20 poursuivis par UFC Que Choisir, il y a aussi Ryanair, Vueling, Lufthansa, Emirates, Royal Air Maroc, Tunisair, Air Algérie et Air Caraïbes. À propos de compagnie aérienne, EasyJet dit ce matin avoir subi une cyberattaque massive, 9 millions de clients concernés. Les pirates informatiques ont eu accès aux adresses e-mail, aux détails du voyage et dans un faible cas, aux données des cartes de crédit des passagers. Voilà pour cette annonce d'EasyJet en cette mi-journée. Les compagnies aériennes souffrent violemment de la crise, mais elles font aussi quelques petits gagnants. Les téléconsultations médicales ont été multipliées par 110 000 par semaine début mars, plus d'un million par semaine à présent selon l'assurance maladie. Alors le leader français de la téléconsultation Doctolib va embaucher. Un deuxième site français va voir le jour, ce sera à Nantes. 500 emplois à la clé d'ici à 3 ans. Voilà, gagnant de la crise, parmi les perdants, ô combien, les clubs de sport. Comment les aider? Un appel à dons est lancé. 50 euros minimum, c'est déductible des impôts. Ça se passe sur une plateforme internet. C'est l'opération Soutien ton club, Cédric Guillou.
L'objectif, c'est d'aider les clubs sportifs à surmonter la crise actuelle et préparer la rentrée de septembre dans de bonnes conditions, car certaines associations commencent vraiment à se trouver dans une situation financière périlleuse. Alain Requiem est le président du Roller Club de Bourges, créé il y a 22 ans. Il emploie 2 salariés et s'est déjà inscrit sur la plateforme.
Chaque centime est le bienvenu, si demain, effectivement, nous n'avons plus suffisamment de rentrée d'argent, quid des salariés, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne bénéficie d'aucune aide concernant cela. On prend vraiment dans les fonds propres et dans ce que peuvent nous apporter les mécènes éventuellement.
Le but de cette plateforme solidaire, c'est également de remobiliser des bénévoles découragés et pour beaucoup dans l'incertitude. Philippe Saïd est le président du comité régional olympique et sportif de Nouvelle-Aquitaine qui compte 18 000 associations sportives et 290 000 bénévoles.
C'est lourd aussi pour un club de se dire mais comment je vais faire reprendre mon activité, quel risque je prends en tant que dirigeant pour faire reprendre le sport par rapport aux jeunes. C'est lourd pour un bénévole de faire reprendre l'activité.
Montant minimum du don, 50 euros, avec déduction fiscale de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
Et comment le monde de la culture va-t-il se déconfiner petit à petit au fil de l'été? À Paris, il y avait encore un doute sur des événements programmés en août. La mairie promet qu'il y aura un beau mois d'août de la culture dans la ville. Je rappelle que nous sommes en campagne électorale. Christophe Girard, adjoint d'Anne Hidalgo en charge de la culture.
Il faut que la culture se répande partout dans Paris pendant le mois d'août, de manière à ce que celles et ceux qui ne partent pas puissent entendre une belle chanson, entendre un beau texte dans un kiosque ou devant un théâtre. Il faut que dans les quartiers, dans les espaces inhabituels, que ce soit les parcs et jardins, les kiosques à musique, dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD, qu'il y ait en effet la possibilité d'entendre de la musique, de voir une œuvre d'art, d'entendre une déclamation poétique. Il y a aussi ce que nous préparons avec le Off d'Avignon, de manière à ce que celles et ceux qui se retrouvent sur le bord de la route puissent répondre à l'appel à projet. Il y a même une proposition qui viennent de metteurs en scène connus, mais il y a aussi des équipes plus jeunes qui veulent participer à ce mois de la culture. Donc on va avoir beaucoup de surprises. Aujourd'hui, la boîte à idées est ouverte pour le mois d'août de la culture à Paris.
Un propos recueilli par Isabelle Pasquier.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur,
qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Beau et chaud, Jean-Michel Golinski.
Le temps sensible cet après-midi sera un copier-coller des conditions que nous avons connues hier, c'est-à-dire du bleu dans un ciel peu nuageux sur 90% du territoire et le maintien d'un temps instable avec des averses parfois de grêle et orageuses sur une partie du quart sud-est, en particulier sur le Dauphiné, la région PACA et la Corse, avec un mistral et une tramontane vers 70 km par heure. Demain, le soleil va rester vaillant sur la quasi-totalité du pays. Dans le quart sud-est, les averses vont commencer à s'éloigner et le vent va faiblir en vallée du Rhône et dans le golfe du Lion. Cet après-midi, les températures d'un bon niveau pour une seconde quinzaine de mai vont souvent approcher une moyenne de 25 degrés avec des pointes à 27 à Grenoble, Strasbourg, Agen et Perpignan, 28 à Marseille, 30 à Montpellier et à Nîmes. Demain, les valeurs vont stationner dans la moitié sud et prendre 2 à 3 degrés supplémentaires dans toute la partie nord du pays.
Dans un instant, la suite du grand rendez-vous, le virus au carré. Nous attendons vos appels au 01 45 24 7000 autour de cette question. Qui sont les malades du Covid ? Question cruciale pour le déconfinement. C'est à suivre.
Les viandes de bœuf Label Rouge. Par ceux qui en parlent le mieux ?
Ah bah oui, c'est clair et net. Le bœuf Label Rouge, c'est un vrai gage de qualité, réglementé et contrôlé. Les bêtes vivent au grand air dans des fermes familiales et elles mangent de la bonne herbe des prés. Et après, on fait maturer la viande 10 jours, minimum. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là.
Et donc, vous êtes éleveur ?
Ah non, 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 je suis maraîcher, moi. Mais je veux une bonne viande pour accompagner mes bons légumes. Pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner. Que ce soit en téléconsultation ou sur place, en cabinet ou dans les hôpitaux, tout est organisé pour éviter les contaminations. Continuez à prendre vos médicaments et ne reportez pas les examens qui vous sont prescrits. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un bébé, maintenez les rendez-vous de suivi et les vaccinations obligatoires. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 15. Retrouvez plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et il est 13h31.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous, Bruno Duvy.
Et avec grand plaisir, nous retrouvons Mathieu Vidard et son invité scientifique. Et nous attendons vos questions au 01 45 24 7000. Mathieu, on s'intéresse aujourd'hui au profil des malades du Covid.
Oui Bruno, car connaître les personnes les plus à risque est évidemment indispensable pour d'abord mieux les soigner, mais aussi pour qu'elles se protègent en adoptant des mesures strictes leur permettant d'éviter tout risque de contamination. Sauf qu'établir le portrait robot de ces personnes n'est pas si simple, car les scientifiques ne disposent pas encore assez d'études avec une large cohorte de population. Les personnes contaminées par le Covid-19 ne sont pas toutes dépistées et par ailleurs, plusieurs personnes, notamment les jeunes populations, présentent peu ou pas de symptômes. Bon nombre de contaminations avérées passent donc entre les mailles du filet. Des données. Pour le moment, on ne peut donc exploiter, Bruno, que les informations qui sont liées aux hospitalisations.
Et que disent ces informations ?
Eh bien, c'est le rôle prépondérant de l'âge qui est le facteur le plus important. Toutes les études le montrent depuis les premières publications en Chine comme en Europe. Si l'on regarde le dernier point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France, daté du 14 mai, on peut voir sur les 96 000 patients ayant été hospitalisés depuis le 1er mars, l'âge médian qui était de 72 ans. Parmi eux, 17 000 patients sont décédés et 71% étaient âgés de 75 ans et plus. Une étude anglaise publiée le 7 mai dernier a pu d'ailleurs confirmer de façon implacable ce facteur de risque. Les chercheurs ont pu récolter les données des dossiers médicaux de 17 millions d'habitants et ont calculé que pour les 5600 décès attribués au Covid-19, le risque de décès était doublé pour les sexagénaires, quintuplé pour les septuagénaires et multiplié par 12 à partir de 80 ans. L'écart de risque entre les plus jeunes et les plus âgés est énorme puisqu'il est multiplié par 180.
Alors cela dit, l'âge n'est pas le seul facteur de risque.
Non, en effet, il y a aussi des cas de comorbidité pour les trois quarts des personnes admises en réanimation. C'est le cas pour plus de 84% des personnes décédées. Pour en savoir plus, en tous les cas, sur le profil des malades, deux études épidémiologiques, Sapris et Epikov, sont actuellement en cours en France sous l'égide de l'INSERM. Elles permettent déjà de travailler sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été suivies depuis des années. Les participants à ces études vont pouvoir faire un test sérologique qui permettra de savoir s'ils ont contracté contacté le virus à un moment donné. L'idée est de pouvoir confirmer ou infirmer plusieurs hypothèses autour du Covid-19 et donc de pouvoir affiner le profil des personnes les plus vulnérables face à la maladie.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Dominique Costagliola. Bonjour madame.
Bonjour.
Directrice de recherche de classe à l'INSERM et directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Les auditeurs nous rejoignent avec toutes les questions au 01 45 24 7000. On commence avec vous, Mathieu.
Oui, Dominique Costagliola, une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il est encore difficile d'avoir des données en dehors des hospitalisations pour en savoir plus justement sur le profil de ces personnes à risque face au Covid ?
Parce qu'on n'a pas encore des données fiables sur quels sont les gens qui ont été infectés. On va pouvoir avoir cela quand on pourra utiliser des tests sérologiques à grande échelle, ce qui n'a pas encore été possible pour l'instant. Donc pour l'instant, on travaille essentiellement sur le risque d'être hospitalisé, mais ça combine le fait d'avoir la maladie et ensuite, quand on l'a, le fait d'avoir une forme modérée ou sévère qui conduit à l'hôpital. Et on ne peut pas du coup bien faire la part des choses entre les deux aspects.
Question de Francis au standard de France Inter. Bonjour Francis.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Question qui me concerne un petit peu. 65 ans.
Oui.
66 même, pardon, 66. Une hypertension parfaitement contrôlée depuis des années par des médicaments et par ailleurs aucune autre comorbidité, pas un pet d'obésité ni de diabète, ni de cholestérol et toutes ces sortes de choses. Et voilà, et je voulais savoir si cette hypertension maîtrisée par les médicaments me donne un sur-risque par rapport à toute personne masculine de 66 ans.
Dominique Costagliola.
Alors, on n'a pas beaucoup la réponse à cette question, dans la mesure où pour l'instant, dans les études, on a le terme hypertension, et les gens ne différencient pas les gens qui sont contrôlés et ceux qui ne le sont pas. Je pense que quand on aura des données avec des tailles d'échantillons suffisantes et qu'on va regarder la question que vous posez, il est assez probable que le risque ne sera pas le même quand l'hypertension n'est pas contrôlée, quand elle est contrôlée, parce que c'est ce qu'on voit pour tous les risques liés à l'hypertension, comme par exemple le risque d'infarctus ou le risque d'AVC. Mais pour l'instant, on ne peut pas donner une réponse définitive à votre question.
Nathalie au standard de France Inter. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Moi, je vous appelle parce que au début de la pandémie, on a beaucoup parlé des obèses qui étaient des personnes à risque. Mmh. Je suis moi-même médicalement obèse et j'ai la chance de ne pas avoir un seul autre problème associé à l'obésité. J'ai pas d'hypertension, pas de diabète, pas de cholestérol, etc. J'ai juste mal aux genoux. Ouais. Et du coup, ma question, c'est est-ce que les gens qui sont dans ma situation et qui ont la chance de ne pas avoir d'autres problèmes sont des personnes à risque.
Dominique Costagliola, qu'est-ce qu'on peut répondre à Nathalie ?
Malheureusement, un petit peu la même réponse qu'à l'auditeur précédent. Effectivement, il est tout à fait possible que le risque ne soit pas augmenté dans la situation décrite par l'auditrice. Mmh. Mais néanmoins, pour l'instant, on n'a pas des études d'assez grande taille ont permis de différencier obésité avec comorbidité et obésité sans comorbidité. Mmh. Alors, il semble malgré tout chez les personnes plus jeunes qui sont plus souvent obèses sans avoir de comorbidité, qu'on retrouve quand même un sur-risque associé à l'obésité. Mais une réponse définitive mérite vraiment d'être explorée dans des études de grande taille.
Mathieu Vidard.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire finalement très clairement la comorbidité, Dominique Costagliola, pour qu'on soit très clair, et quels sont les facteurs les plus fréquents aujourd'hui associés au Covid-19 ?
Les choses qui ont été décrites, c'est autour de tout ce qui est les pathologies justement décrites par l'auditrice associées aux comorbidités, hypertension, risque cardiovasculaire, diabète, c'est ça qui a été mis en avant jusque-là. Mmh. Et puis, il y a aussi tout ce qui est les pathologies pulmonaires. BPCO, apnée du sommeil, et des choses comme ça que l'on retrouve également pour l'instant dans les études. Mais à nouveau, sans qu'on puisse dire s'il y a un rôle spécifique ou souvent ces comorbidités, elles sont relativement, on les appelle comorbidités parce qu'elles sont souvent associées chez la même personne, comme ce qu'évoquait l'auditrice. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire la part de chacune d'entre elles. Et bien sûr, très important, c'est savoir si ça fait une différence quand on est traité et qu'on contrôle le diabète, ou qu'on contrôle l'hypertension, et quand on a ces pathologies, mais qu'en revanche, on n'a pas un traitement qui permet de contrôler ces conditions.
Toutes ces comorbidités, Dominique Costagliola, elles jouent un rôle clé dans la deuxième phase de la maladie, c'est-à-dire le fameux orage cytokinique, quand ça s'aggrave, ou elles jouent dès le début de la maladie?
Il est probable qu'elles jouent surtout un rôle dans la deuxième partie de la maladie, en cas d'aggravation, dans la mesure où on sait que ces associations justement de morbidité, hypertension, diabète, cholestérol, sont associées à une inflammation naturelle. C'est-à-dire que naturellement, en permanence, l'organisme a des réactions inflammatoires à cause de ces pathologies. Si là-dessus vous rajoutez une autre cause d'inflammation, comme le virus, eh bien évidemment, ça va totalement déstabiliser le système qui arrivait, disons, à survivre déjà à l'agression que constitue l'ensemble de ces pathologies. Si vous en rajoutez une, on comprend bien que ça puisse déséquilibrer le système.
Alors on parle, et on en a parlé depuis le début de cette émission, de diabète. C'est ce dont souffre Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Nous vous écoutons Hélène. Soyez la bienvenue.
Voilà. Bonjour, j'ai 70 ans, j'habite Mulhouse, une ville réputée à cause de son cluster. Oui. Je suis diabétique depuis l'âge de 12 ans, suivi avec tous les gadgets électroniques, capteurs, pompes à insuline et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas de complications qui ne soient pas traitables, je suis bien suivi, mais ce qui me terrorise, c'est de devoir rester encore confinée jusqu'à, je ne sais pas, on me dit décembre, janvier, février. Est-ce que je suis vraiment la comorbidité la pire qui existe, si on schématise ce qu'on peut lire dans la presse ou écouter à la radio?
Qui vous dit de rester confinée, si je peux me permettre?
Oh, j'ai lu ça dans beaucoup d'endroits. Hein. Oui. Je n'ai pas encore vu mon diabétologue depuis le début de l'évolution du virus. Je vais le voir dans deux semaines. Et j'attends effectivement son verdict, mais c'est ce qu'on lit un peu partout. Hein, dans les articles scientifiques, je suis abonné au Monde, et puis bon, je suis tout ce qui est sur Radio France. Hein.
Alors Dominique Costagliola, il me semble que la consigne n'est pas de dire aux gens qui souffrent, que ce soit de maladies cardiovasculaires, de diabète, ou même aux personnes âgées, de n'absolument pas sortir de chez elles, on est d'accord?
Non, bien entendu. D'abord, enfin voilà, on imagine que du coup on aurait trop de souffrances psychologiques.
Bien sûr,
dans cette situation-là. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que ça incite à avoir des mesures barrières en étant particulièrement observant à ces mesures. Et je ne doute pas que ce soit le cas de madame, parce que diabétique depuis l'enfance, donc sans doute diabétique de type 1, sans complications et en étant super bien suivie comme elle l'a expliqué, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie, depuis très longtemps, attention à sa santé. Dans ces cas-là, je dirais que, bien sûr, il faut recommander les gestes barrières, et même si ça n'est pas recommandé pour l'ensemble de la population, très certainement le masque lorsque l'on sort, de bien se laver les mains souvent et ou d'utiliser le gel hydroalcoolique, et puis de ne pas être dans des réunions où il y aurait 20 personnes, quoi. Mais je crois qu'il faut qu'on réapprenne à vivre, simplement en pas tout à fait comme avant, et en prenant ces mesures de précaution.
Hélène, si je peux me permettre une question, est-ce que vous avez peur de sortir?
Un petit peu, mais en même temps, j'ai deux activités où nous sommes 4 ou 5 personnes et où j'aurais envie d'aller. Hein. J'ai un groupe de langue ancienne, nous sommes au maximum 4 personnes, et je suis également impliquée dans une association des droits de l'homme où je devrais participer quand ça reprendra. Donc est-ce que je peux prendre le risque? C'est des groupes qui sont restreints à 5, 6 personnes maximum.
Dominique Costagliola.
On est bien dans, de toute façon, ce qui est recommandé, de ne pas avoir des réunions. Il faut respecter, dans la mesure du possible, le fait de ne pas être à proximité les uns des autres, de pouvoir avoir peut-être des salles de réunion plus grandes, utiliser le masque, avoir du gel hydroalcoolique à portée de main. Et à mon avis, ça sera beaucoup plus important de continuer à s'occuper de ces activités extrêmement importantes que vous avez citées que de rester chez vous en déprimant, à condition bien sûr que tout le monde respecte les gestes barrières.
Mathieu Vidard.
Oui, Dominique Costagliola, l'un des enjeux des études qui sont menées en ce moment, comme celle de l'INSERM, ce sera de voir justement pour des traitements associés à des pathologies, si on constate des effets qui favorisent ou qui aggravent le Covid-19.
sûr. Donc ça, à la fois en termes de risque de l'attraper et potentiellement en termes d'aggravation si jamais on les prend. On a beaucoup parlé de médicaments qui jouent sur un des récepteurs là du virus, qui est le récepteur ACE2. Il y a des médicaments antihypertenseurs qui jouent aussi sur ce récepteur et pour lesquels c'est vraiment intéressant de savoir si ça pourrait avoir un effet sur le risque et sur l'aggravation. Et on a aussi parlé de façon peut-être encore plus polémique de l'association avec le fait de fumer. Les données disponibles pour l'instant sont uniquement des études écologiques, donc de bas niveau de preuve. Donc ça va être vraiment important de pouvoir bien démêler les associations que l'on observe et de pouvoir vraiment envisager de voir si ça a une relation causale ou pas dans ce qui est. Parce que pour l'instant, on ne peut pas conclure ni sur les médicaments, ni sur le fait de fumer, par exemple, à partir des données qui sont disponibles.
Mathieu le disait aussi dans son édito en introduction, on s'appuie pour l'instant uniquement sur des données hospitalières. C'est plus compliqué en France que dans d'autres pays d'avoir accès aux données des particuliers ou aux données en maison de retraite ?
Non, je ne crois pas que ce soit plus compliqué qu'ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas vu de données de population. Les seules données, vous les avez évoquées, c'est les données là, de l'étude anglaise.
Ouais.
Mais dans cette étude, à nouveau, on passait directement de la population générale au fait de décéder. Donc on combinait les risques d'être exposé à la maladie et donc de la développer, qui peuvent avoir certains déterminants. Et derrière, si on l'attrape, le fait de faire une forme grave peut avoir d'autres déterminants, ou même un même facteur qui n'a pas le même rôle, c'est le risque de l'attraper, et ensuite le risque de développer une forme grave si on l'a. Et dans ces cas-là, du coup, on ne sait pas bien que conclure avec ces données. Vous voyez ? Et ça, pour l'instant, ils n'avaient pas la notion dans ces données anglaises. Il n'y a pas la notion de savoir si les gens l'ont attrapé. Puisque dans aucun pays, de toute façon, on a testé de façon universelle pour savoir qui l'avait attrapé. Donc on n'a vraiment pas ces données dans aucun pays au monde pour l'instant.
Pierre au standard de France Inter. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Voilà, c'était une question assez simple. Ma femme s'est fait opérer le 31 mars d'un cancer du sein. Elle est en radiothérapie jusqu'au 21 juin. Voilà, je voulais savoir si c'était une personne à risque. Est-ce qu'on peut recevoir dans le jardin quelques personnes pour faire un apéritif ou est-ce qu'il faut vraiment qu'elle reste confinée et qu'elle sorte le moins possible, ainsi que moi?
Alors, radiothérapie, et peut-être qu'on peut ajouter pour les personnes qui sont actuellement en chimiothérapie, est-ce que le risque est plus important, Dominique Costagliola?
Alors là, je dirais qu'effectivement, du fait des traitements liés au cancer, on met les gens en situation d'immunodépression, donc d'avoir un système immunitaire moins capable de faire face à toutes les agressions, y compris les maladies virales. Ça, pour moi, c'est vraiment une situation particulière. Donc je pense que pendant la période où il y a des traitements, oui, il est important de minimiser les expositions. Et du coup, ça ne veut pas dire ne voir personne, mais ça veut dire que ne voir que des gens dans la mesure où on peut respecter les gestes barrières et le port du masque. Et évidemment, c'est difficile d'avoir un masque si on veut prendre l'apéritif avec des amis. Ouais. Mais pour moi, ça, c'est quand même une situation de risque tout à fait particulière et temporaire. On peut bien sûr l'espérer et que tout se passe au mieux pour cette personne. Je crois que c'est plus prudent, effectivement, dans cette situation particulière-là.
Mathieu Vidard.
Oui, est-ce que la quête d'une immunité collective, finalement, n'est pas incompatible avec le fait de vouloir confiner la population ou justement de protéger au maximum les personnes?
C'est un tout petit peu antinomique. Et puis aussi, on ne sait pas vraiment s'il va être nécessaire d'atteindre ce niveau. On n'a pas d'idée de savoir s'il y a des gens qui sont naturellement résistants à cette maladie. Il n'y a pas des gens qui ont quand même une certaine forme d'immunité croisée qui ferait qu'ils sont mieux à même de réagir que d'autres. Donc, d'abord, on ne sait pas bien si vraiment ces taux qu'on nous a annoncés de 50 à 70% sont justifiés et seront justifiés dans ce cas-là. Et après, bien sûr que c'est un petit peu antinomique. Ce qu'on veut essentiellement à l'heure actuelle, malgré tout, c'est essayer d'exposer le moins possible les gens qui sont plus à risque. Et eux, c'est donc particulièrement important qu'ils respectent au maximum les gestes barrières et qu'ils se protègent. Mais on veut en même temps que la maladie puisse se diffuser. On sait qu'il y a une grande partie de la population qui ne va pas faire
les formes graves. Hein, le taux de personnes qui vont à l'hôpital est tout de même finalement globalement assez modeste sur l'ensemble des gens. Ouais. C'est difficile de faire la barrière entre les deux parce qu'il y a tellement d'incertitudes encore. Mais c'est sûr que un de vos auditeurs disait qu'il avait 66 ans de l'hypertension. Ben oui, voilà, moi par exemple, si je pense à moi-même, j'ai aussi 66 ans. Je n'ai pas forcément envie de me sacrifier au nom de l'immunité communautaire, mais en même temps, je crois qu'il n'est pas possible non plus qu'on reste enfermé à vie, ni les uns ni les autres, pas plus moi que des gens moins à risque.
Merci.
Donc il faut qu'on apprenne à adapter notre façon de vivre pour essayer de passer ce cap au mieux. Et puis, on peut espérer malgré tout qu'il va y avoir des traitements et dans un second temps, des vaccins qui vont nous permettre de terminer plus rapidement, finalement, cette crise.
Merci Dominique Costagliola d'avoir répondu à nos questions. Mathieu Vidard, c'est mardi, c'est Facebook Live à 14h.
Oui, 14h avec l'astrochimiste Hervé Cotin. Astéroïdes, comètes et origine de la vie, c'est sur la page Facebook de la Terre au Carré dans un quart d'heure à peine.
Nous y serons, cher ami, à demain, 13h49, c'est l'heure du répondeur.
Le répondeur d'Inter... 01 56 40 68 68.
Ici Daniel d'Auzol en Saône-et-Loire. J'ai entendu que parmi les mesures pressenties, il n'était pas question du tout de rétablir l'ISF. Alors, je me suis dit que finalement, la rétablir pour quelques années, le temps de sortir l'hôpital du merdier dans lequel on l'a plongé depuis pas mal de décennies, ça serait pas une idée idiote. Et puis, en échange de ça, on pourrait aussi leur donner une médaille. Ça les mettra à égalité avec les soignants.
Oui, bonjour, Jocelyne, confinée sur son bateau à La Rochelle. Donc, ça fait 2 mois qu'on est confiné à ne voir personne, puisqu'il n'y avait personne sur les pontons. Et maintenant qu'il y a le confinement, on se reconfine dans notre bateau, mais alors c'est encore pire, parce que tout le monde est sur les pontons, tout le monde est énervé. La plage, on n'en parle pas, parce qu'il y a tout La Rochelle qui vient à la plage. Il n'y a même pas de sens d'aller et de venir. Donc, on nous empêche de rentrer dans notre résidence principale, dans les Yvelines, où on pourrait être dans les bois, avec une grande maison et tout, puisqu'on n'a pas de motif familial impérieux, comme ils disent. Donc, le déconfinement, il y en a marre. Allez, au revoir.
Oui, bonjour. Pourquoi a-t-on rouvert le Mont-Saint-Michel, où les gens sont serrés les uns contre les autres, et pas les parcs de Paris, où les enfants, petits-enfants, peuvent aller s'oxygéner et se dégourdir les jambes? Pourquoi? Parce que les parcs, c'est gratos. Pourquoi? Parce que le Mont-Saint-Michel, c'est l'économie. Eh ben, il faut pas aller chercher plus loin. Merci.
01 56 40 68 68.
Et un grand merci à Christophe Humbert à l'écoute de ce répondeur chaque jour. Et à 13h51, j'accueille Antoine Decaune. Ça faisait longtemps. Bonjour Antoine.
Oh, mais oui, Bruno. Mais je suis tellement heureux d'entendre à nouveau votre voix.
Menteur.
Vous n'imaginez pas. Mais c'est vrai, on s'est pas parlé depuis jeudi dernier.
Dingue.
Et moi, j'irai comme un chien perdu sans collier, jappant son désarroi dans un univers brusquement déconfiné.
Oh là,
et une fois de plus, Bruno, c'est la musique qui m'a sauvé.
Ouais.
En rangeant mes vinyles, pour trouver quelque chose qui vous amuse, vous émeuve, j'irai jusqu'à dire vous fasse remuer la queue de joie, je suis tombé sur une version vraiment particulière de A Hard Day's Night. Vous vous souvenez, ce méga hit des Beatles, interprété cette fois-ci par des chiens de berger.
Non.
Alors non, pas des chiens ayant appartenu à Michel Berger, mais des vrais chiens de berger. Des chiens qui ont poussé la conscience professionnelle jusqu'à demander aux moutons qu'ils surveillent de bien vouloir prendre en charge les couplets. Et alors là, Bruno, vous vous dites, oncle Antoine vit très mal le déconfinement.
Un peu.
Oui, il devrait diminuer sa dose avant que sa dose ne diminue. Eh bien, vous allez changer de ton, mon ami, c'est moi qui vous le dis. Et pas plus tard que tout de suite. Le groupe, c'est The Barkers. Ça nous vient du fond des années 80. C'est australien, un pays qui s'y connaît en musique et en cabot, souvenez-vous des Bee Gees. Et c'est ce genre de sucrerie dont nous raffolons dans Pop Pop Pop. Ça devrait vous amuser. Allez, allez-y les gars. Go, go, go. 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 Go, go, go
La question était pourquoi The Barker's A Hard Day's Night. Alors ça, c'est très 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 original, Antoine.
Ben la réponse est pourquoi pas.
De quoi on parle dans Pop Pop Pop? On aboie ou pas dans Pop 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 tout à l'heure?
Non, on n'aboie pas. On n'aboie pas. On applaudit Jacques Audiard et Fred Testo tout à l'heure.
Et ce que nous écoutions, c'était The Barker's version de A Hard Day's Night, très particulière. Merci beaucoup Antoine de Caunes et à demain.
Demain Bruno, j'ai hâte.
Et bonjour Philippe Collin.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
En attendant que le match reprenne, notre rendez-vous du mardi juste avant 14h. Alors dimanche prochain, Philippe devait débuter à Paris le French Open, comme l'appellent les anglo-saxons, le tournoi de Roland-Garros. Pas de tennis cette année, tristesse, pas de terre battue.
Et oui, tristesse et désolation Bruno, car au fil du temps, c'est devenu un des grands rendez-vous de la liturgie cathodique à la télévision. Roland-Garros, c'est le signe avant-coureur du solstice d'été, c'est la grande troménie laïque des fidèles de la balle jaune. Alors pour l'instant, ben, rien du tout, l'édition 2020 est reportée du 20 septembre au 4 octobre et a priori ça se jouera à huis clos. Bref, on n'en sait rien, on verra bien.
Alors, chaque mardi, faute d'avoir ces événements, vous nous racontez des histoires en lien avec les sports concernés. Et donc aujourd'hui, le destin d'une grande championne française de tennis, une pionnière dont absolument plus personne ne se souvient aujourd'hui.
Oui, oui, je suis allé vérifier dans les archives des trois grands quotidiens français, Le Monde, Le Figaro et Libération, aucune trace d'une quelconque nécrologie de cette grande championne de tennis morte à Orléans. En avril 1983, à l'âge de 90 ans, personne à l'époque n'a pris soin de saluer et de mentionner le décès de Marguerite Brockedis. Voilà, c'est elle. Pourtant, il eût été normal de raconter sa vie dans le journal. Et comme dirait l'historienne Michel Perrault, voilà une grande oubliée de l'histoire, Bruno.
Alors, nous allons réparer l'oubli grâce à vous. Revenons sur ce destin. Marguerite Brockedis, née à Pau en 1893, où elle a deux grands frères, Louis et Eugène, et un père qui est maître pommier.
Absolument, Émile Brockedis est maître pommier, comme vous dites Bruno, c'est-à-dire qu'il enseigne le jeu de paume, ancêtre du tennis, et lorsque la bourgeoisie paloise n'est pas sur les terrains, ses trois gamins à lui là pratiquent le jeu de paume, et il se trouve que la petite Marguerite a de vraies aptitudes avec la balle, elle est même très douée.
Alors la famille monte s'installer à Paris, où Marguerite Brockedis se met au tennis, poussée par son père.
Oui, et c'est ainsi qu'à l'aube du XXe siècle, sur les cours de tennis, cette jeune Française fait sensation. Un coup droit ravageur, très jolie fille, grande élégance vestimentaire. Elle s'est débarrassée des corsets à armature, par exemple. Ouais. Elle porte une longue jupe blanche à midonnée, un cardigan blanc impeccable avec un fin liseré noir, à se demander vraiment si la Chanel ne lui a pas piqué l'idée. Et sur la tête, elle porte un magnifique bonnet en feutre de Florence. Tout le monde la remarque, évidemment. Elle incarne la French Touch. Ouais. Et surtout, Bruno, elle gagne un grand nombre de tournois pour l'époque.
Au point que Brockedis est intégrée à la délégation olympique française pour les JO de Stockholm en 1912. Et ça, c'est une prouesse.
Oui, une vraie, vraie prouesse. Parce que à l'époque, il y a 112 sportifs français sélectionnés pour ces JO en Suède. Et c'est la seule femme de la délégation. Alors, après un tournoi olympique magnifique, le 5 juillet 1912... Marguerite Brockedis devient la toute première sportive française championne olympique, toutes disciplines confondues. Et oui, Brockedis décroche la médaille d'or. C'est la première de toute l'histoire du sport français au féminin.
Ben oui.
Ça méritait au moins une nécrologie en 1983.
Et en même temps, j'ai googlé pour dire les choses et on a des images de Marguerite Brockedis pour les auditeurs qui s'intéressent. Ils pourront aller voir après avoir écouté cette chronique. Alors, suivent ensuite deux titres de championne de France, 1913-1914. Un second titre décroché face à une certaine Suzanne Lenglen qui, elle, est restée dans la postérité. Hein.
Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, ce fut la seule défaite de Suzanne Lenglen aux internationaux de France qui deviendront le tour de Roland-Garros en 1925. Marguerite Brockedis est au zénith de sa carrière, immensément populaire. On trouve beaucoup de photos, hein, vous venez de le dire, Bruno, d'elle dans la presse d'avant-guerre. La BNF regorge de fonds photographiques de Marguerite Brockedis. Malheureusement, la guerre va stopper net sa carrière, à la fois, bien sûr, parce que tous les tournois sont suspendus, et aussi parce qu'elle perd un de ses frères sur le champ de bataille, dès le 22 août 1914, d'ailleurs. Quant à son second frère, lui aussi grièvement blessé, il est resté paralysé toute sa vie et le choc est très rude pour la jeune Marguerite. Ça va vraiment la fracasser en réalité.
Et une fois de plus, la grande histoire a un impact sur le sport. Oui. Alors, elle a quand même décroché un titre à Roland-Garros en double mixte aux côtés de Jean Borotra en 27.
Oui, c'est son dernier grand titre majeur. Après-guerre, Marguerite est éclipsée par la tornade de Suzanne Lenglen, plus excentrique, plus médiatique, plus douée aussi. Lenglen a enterré sa rivale au point que Marguerite, donc, disparaît des radars dans les années 30 et meurt dans l'indifférence la plus totale le 23 avril 1983.
Est-ce qui vous plaît chez elle, c'est son côté héroïne de Fitzgerald?
Oui, précisément. Marguerite venait d'un milieu assez modeste, avec une ambition sociale, elle y est presque arrivée, vous savez, elle a touché du doigt son heure de gloire, et puis ensuite c'est un destin brisé jusqu'à l'oubli total. Alors oui, il y a du Francis Scott Fitzgerald chez elle, elle est contemporaine de Gatsby d'ailleurs, et voyez aujourd'hui à Roland-Garros, un des cours de tennis s'appelle Suzanne Lenglen et pas le cours Marguerite Brocadis. Il y a une sorte de mélancolie fitzgeraldienne dans le destin déchu de Marguerite, ça me touche, et l'idée d'en parler ici, ce midi dans cette émission, c'est une manière de la faire vivre encore un peu dans l'esprit des auditeurs d'Inter. Alors retenez bien son nom. Elle s'appelait Marguerite Brocadis. Voilà, Bruno.
Et réécoutez cette chronique si vous n'avez pas noté tous les détails, mais c'est assez fascinant. Merci beaucoup, Philippe, pour ce nouveau récit. Rendez-vous mardi prochain. Vous savez déjà de quoi vous parlerez? Non, pas encore.
Du tennis, sans doute encore, mais je ne sais pas quoi.
C'est noté. À mardi
verra.
Prochain.
Merci, Bruno. Philippe. Au revoir. Merci.
Le journal de 14h approche.
Chantal et Alain ont 70 ans. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis le début du confinement. Ils n'ont qu'une envie, les serrer dans leurs bras. Alors, pour profiter de leurs petits-enfants et de toute la famille, Chantal et Alain s'adaptent. Ils font très attention à respecter les mesures barrières.
Le virus est toujours là et 9 personnes sur 10 qui meurent d'une infection à coronavirus ont plus de 65 ans. Restons prudents. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
14h25.